On va avoir du mal à les enlever. Bonjour chers amis auditeurs. Sur le plateau de l'émission Le Temps d'une cathédrale, je retrouve avec grand bonheur Marie-Madeleine Rey.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Bonjour Marie-Madeleine. Donc nous continuons ce que nous avions entamé la semaine dernière, c'est-à-dire les peintures sur les murs nord, nord-est et sud. Donc nous avions commencé par les peintures Saint-Pierre-Saint-Paul au nord, la lapidation et l'ensevelissement d'Étienne, ainsi que le baptême de Dioscorus. Là maintenant, nous continuons sur le mur nord-est où nous apercevons, me semble-t-il, Marie-Madeleine, mais vous allez me dire peut-être que je me trompe, l'adoration des mages.
Mais non, c'est ça, Martine. Il faut oser.
J'ai osé.
Alors oui, il s'agit bien donc de l'adoration des mages, autrement dit l'épiphanie. Voilà, épiphanie qui veut dire manifestation. C'est la manifestation de Jésus fait homme. Dieu fait homme au monde entier. Monde entier représenté par les trois mages qui viennent lui présenter trois présents.
J'ai mauvaise grâce à vous dire, Marie-Madeleine, l'épiphanie, c'est là où on mange les galettes. Non, ce n'est pas du tout le cas mais... dans ce tableau et dans cette peinture, bien
non,
sûr.
Non, dans le tableau, non, mais en
alors,
réalité,
donc, nous
oui.
Revenons à cette adoration des mages, où je fais le naïf comme d'habitude, ou la naïve comme d'habitude, et je vois un roi qui lève la main et qui pointe du doigt une étoile.
Alors, on va les regarder un par un. Vous savez qu'il s'agit de Gaspard, Melchior et Balthazar,
absolument.
Selon la légende dorée. Voilà. Donc, Gaspard doit être devant, au premier plan, à genoux. Il est couronné, tel un roi. Il a un manteau vert bleu et une robe rouge. Il est barbu, il est chevelu. Il n'est pas si vieux que ça, il est dans l'âge mûr. Voilà, mais c'est le premier qui présente donc de l'or au petit Jésus. Le petit Jésus lui-même est juché. Si on peut dire.
Il paraît déjà grand d'ailleurs.
Sur un des genoux de sa maman, la Vierge Marie.
Oui, il paraît déjà grand. Hein,
c'est ce que il est déjà grandé.
Oh, il me semble
déjà grandé. Il a l'air de s'intéresser au présent que lui montre le mage.
D'ailleurs, il
le
montre du doigt. Il montre
voilà.
Du doigt.
Hein, alors, pas forcément parce qu'il écarte les bras. Mm-hmm. Il a une petite robe rouge.
Tout comme
il
sa
est
maman.
Auréolé. Et il écarte les bras. Ça fait une petite croix quand même.
Effectivement.
Voilà.
Maintenant
que
vous le dites, on le voit. On le voit pas au premier abord, mais là maintenant, en regardant un tout petit peu mieux l'image.
Et la robe
photo,
rouge,
voilà.
C'est quand même le symbole de la passion aussi.
Absolument.
Hein. Sa maman aussi est revêtue d'un grand manteau rouge. Voilà.
Couronnée, bien sûr.
Elle est couronnée, bien sûr, et très auréolée. Alors, donc, le second mage est debout derrière le premier.
Voilà, c'est celui que j'ai vu en premier.
Voilà. Donc, il s'agit sans doute de Melchior, enfin on va dire ça, peu importe de toute façon. Et lui, alors, il porte sur son cœur un petit pot couvert où il y a de l'encens. Et il montre en effet de la main gauche l'étoile que ces trois mages ont suivie avec leur caravane et qui les a menés jusqu'au lieu où Jésus est né à Bethléem, dans l'étable de Bethléem. Voilà. Alors, tant que nous sommes à l'étoile... Nous pouvons voir tout à fait au-dessus de la peinture.
Ah oui, effectivement.
Un nuage.
Un nuage oui,
qui représente.
On dirait une sculpture, mais.
Non, c'est un nuage qui est peint et qui représente en fait le ciel, donc Dieu.
Hein, d'accord.
Qui supervise le tout. Et le troisième mage est tout à fait derrière, debout, bien droit. Il est beaucoup plus jeune que les autres.
Je dirais tout de suite, Marie-Madeleine, vous allez me dire si je me trompe, il porte la mire.
Il porte la mire
dans
une sorte de ciboire, c'est-à-dire un calice couvert d'un couvercle, et lui a la peau noire.
Ah, effectivement. Alors, autant le roi mage qui montre l'étoile est également barbu comme le premier, autant effectivement celui-ci est noir et pas barbu.
Et il est jeune, il est imberbe, oui. Mais il a toujours une couronne.
Oui, effectivement.
Voilà.
Bah oui,
les rois
mages.
Alors, voilà, il a la peau noire, mais il n'est pas négroïde. Hein. Il est, voilà, c'est une petite fantaisie du peintre. Hein. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Voilà, mais donc c'est Balthazar.
Très bien.
C'est Balthazar qui est vêtu de rouge avec un capulet blanc. Voilà. Ils sont très beaux, ces trois mages. Alors, la Vierge est assise sur un, ce qu'on appelle un banc-coffre, voilà, avec deux accoudoirs, très 14e siècle, hein, parce que le peintre Cyprien Calmon, qui a repeint cette version de l'adoration des mages en 1873, a remis les éléments qu'il avait retrouvés sur les peintures du 14e. Hein, voilà. Mm-hmm. Alors, pour les trois présents, on peut se poser les questions, pourquoi de l'or, pourquoi de l'encens, pourquoi de la myrrhe?
C'est la question que je me posais à l'instant à l'intérieur de moi-même en me disant, pourvu que Marie-Madeleine nous donne cette explication.
Alors, ce n'est pas moi qui vais vous la donner, c'est Saint Grégoire le Grand, qui était pape au VIe siècle, et qui a dit, voici l'or, c'est un roi. Voici l'encens, c'est un dieu. Voici la myrrhe, c'est un mortel. Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. Alors, l'or, c'est un roi. Pourquoi ? Évidemment, dans toutes les traditions antiques, l'or symbolise la puissance, la richesse. Et donc, a priori, un roi. Hein ? C'est les premiers riches, nous allons dire. Voilà. Bien que souvent, les rois étaient moins riches que certains seigneurs.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais, certains étaient fauchés.
Bon, voilà. Donc, voilà, c'est le symbole du roi, de la puissance du roi. Voilà, donc ça s'est ajouté lors de la création de la création de l'Église. Hein. On a dit que Dieu, que Jésus étant Dieu, il était roi. Hein, voilà, c'était le roi du royaume des cieux. Mmh. Hein, voilà. Donc voilà pour le roi. L'encens, eh bien l'encens c'est un dieu, dit Grégoire le Grand. Donc l'encens est réservé au divin. Et on connaît l'encens, nous à notre époque, par les prêtres qui encensent les autels lors de la messe, lors des liturgies. Voilà. Et cela renvoie au psaume 140, que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Hein, voilà. Donc c'est le symbole de la prière qui s'élève vers le ciel. L'encens est aussi quelque chose qui, qui abolit les odeurs un peu. Hein, voilà, qui cache les odeurs, voilà, c'était le terme que je cherchais, cache les odeurs. Et c'est Saint François, je crois, qui a dit que l'encens avait enlevé l'odeur de l'âne et du bœuf dans la crèche.
Hein,
voilà. Bon. Donc voilà pour l'encens. Et ensuite.
Et donc la myrrhe.
La myrrhe. Alors la myrrhe. La myrrhe, c'est un mortel, dit Saint Grégoire. Donc la myrrhe servait à embaumer les corps. D'ailleurs, dans toutes les civilisations, hein, les Égyptiennes, les Assyriennes, et les Juives au temps de Jésus. Hein, voilà. Donc ça sert à embaumer les corps. Quand Jésus a été enseveli, immédiatement après sa mort, Nicodème et Joseph d'Arimathie ont emmené le corps pour l'enterrer immédiatement avant le sabbat. Mais ils l'ont quand même enroulé d'un linge et de bandelettes qui étaient imprégnées de myrrhe. Hein, voilà. Mais la myrrhe aussi rappelle la passion de Jésus, puisque au moment de sa mort, lorsqu'il a dit « j'ai soif », le soldat qui était au pied de la croix, a trempé l'éponge dans de l'eau et de la myrrhe. Et Jésus n'en a pas voulu. Ça s'explique peut-être parce que la myrrhe était faite aussi, on l'a donnée aux suppliciés quand ils souffraient pour atténuer les douleurs. Mm-hmm. Donc peut-être que Jésus a refusé, sachant qu'il y avait de la myrhe, pour souffrir vraiment jusqu'au bout.
Oui, jusqu'au bout. Hein,
voilà.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. C'est dans Saint Marc, chapitre 15, verset 23. Voilà. Voilà pour l'explication des trois présents qu'offrent les mages dans cette adoration des mages, dite Épiphanie.
Oui, et nous voyons que là, toute cette partie est entourée toujours de ces, de cette partie comme de couleur orange,
oui,
orangée, on va dire,
oui, oui, les,
rouge-orangé.
Les archivoltes sont décorées de motifs géométriques plus ou moins, hein, voilà. Mais on peut y voir peut-être dans la frise qui jouxte immédiatement. Oui, la peinture,
qui est noire, enfin,
on peut
peu
deviner
noir,
des,
blanc, ou beige,
des
ou
petites croix grecques stylisées.
Effectivement.
Ce sont des quadrilobes,
oui,
hein, il y a quatre lobes égaux.
Pour rapprocher l'image, effectivement,
voilà.
On peut avoir cette impression.
Voilà, ce sont des petites croix grecques. Et sur l'archivolte extérieur, eh bien, là aussi on peut y voir des croix, mais en X plutôt.
Oui.
Hein, voilà. Voilà, enfin, selon la position que l'on prend. Alors, on peut passer à la suivante, peut-être ?
Alors, la suivante étant donc sur le mur
sud-est,
le couronnement de la Vierge.
Le couronnement de la Vierge, alors.
Qui est magnifique, d'ailleurs.
Oui.
Alors, il a une particularité, cette... Il a une particularité, cette
lunette,
peinture a une particularité,
hein, voilà.
C'est, c'est la seule qui est d'origine,
oui,
qui serait d'origine,
oui. Hein, que Cyprien Calmont a restauré, mais en grande partie, elle date du XIVe siècle. Elle est beaucoup plus simple d'ailleurs.
Oui, hein? Tout à fait. Elle est très belle dans cette sobriété.
Voilà.
Je ne veux pas dire que les autres peintures
oui, oui.
ne sont pas belles,
oui, oui.
Mais elle est très belle dans la sobriété. Donc on voit...
Donc c'est le couronnement de la Vierge,
voilà, évidemment.
Hein, qui n'est pas relaté dans les évangiles, hein, qui est simplement relaté dans les évangiles apocryphes, c'est-à-dire non...
Oui, ce dont nous avons parlé dès
voilà,
le début.
Déjà, non repris par l'Église, hein, bien sûr, mais qui existe, on peut les consulter.
Donc nous apercevons deux personnages, donc la Vierge, bien sûr, et le personnage à côté étant...
Jésus,
bien sûr.
Jésus,
tout
roi,
auréolé,
hein, Christ
donc d'or,
roi, hein,
voilà, Christ roi, et qui remet la couronne à Marie.
Voilà, qui lui met la couronne sur la tête. Marie l'accepte volontiers, elle sourit même un petit peu. Elle a les mains jointes, elle est assise aux côtés de son fils, vêtue d'une ample robe grise.
Tout comme le Christ.
Tout comme Jésus, oui. Et Jésus, donc, tient le signe de sa royauté, c'est-à-dire le sceptre. Voilà.
Alors, trois couleurs dominantes quand même. Le gris.
Le gris, des personnages.
Le rouge à l'arrière.
Le rouge du rideau qui ferme la scène, mais qui est à mi-hauteur de la lunette. Et dans la partie supérieure, donc,
couleur
on
or.
A, voilà, tout à fait un fond doré, ponctué... de petits carrés, eux-mêmes ponctués de points, hein, ponctués, tout simplement.
Alors, sinon, lorsque vous approchez Marie-Madeleine, la photo que je vois, donc je rappelle que nous travaillons sur ordinateur et que je vois cette photo sur ordinateur, l'auréole de Marie, tout comme... je dirais l'auréole de Marie est ponctuée de points de couleurs différentes.
Oui, de petits points. On dirait des pierres précieuses. Mmh. Hein, ça symbolise les pierres précieuses. Mais aussi probablement les 12 épées que Marie a subies en étant la mère du Fils de Dieu. Hein, les épées, vous savez que... comment il s'appelle Samuel. Elle lui avait promis en lui disant qu'elle allait souffrir, qu'elle allait beaucoup souffrir lors de la présentation de Jésus au temple.
Donc là, je vous disais, l'auréole de Marie est ponctuée de points,
oui.
Enfin, entourée de
oui.
Oui, comme vous disiez, de pierres précieuses.
Comme de pierres précieuses.
Tandis que Jésus, la couleur est unique, elle est rouge.
Alors elle est rouge, oui. Ben, il a souffert sur la croix.
Voilà.
Hein, voilà. Parce que dans les couleurs de Marie, il y a les mystères joyeux, il y a les mystères glorieux et les mystère douloureux.
Qui compose Marie-Madeleine, le chapelet, bien entendu. Alors, combien y a-t-il de pierres précieuses qu'on peut apercevoir ?
Il y en a 12.
Il y en a 12.
Il y en a 12, 4 fois 3. 4 fois 3, c'est-à-dire 3 fois 4 plutôt. 4 mystères quatre mystères douloureux, 4 mystères joyeux.
Par mystère, oui, c'est ça.
Voilà,
tout à fait.
Glorieux. Et le Christ, donc, à lui des petites pierres rouges.
C'est cela, ce qu'on disait juste
avant. Réparties entre les croix, les bras de la croix, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le chrisme, l'auréole avec un chrisme, avec une croix. Et il y a donc quatre parties et chaque partie comporte 5 points. Rouge, donc c'est la passion. Et on peut dire que c'est peut-être aussi le symbole de la marque des clous.
Les 5 plaies. Effectivement, ça peut être interprété de cette façon-là. Voilà. Ça peut être interprété de cette façon-là. C'est une peinture absolument sobre au niveau des couleurs, mais extrêmement belle et probablement la seule qui est
authentique. Oui, serait la plus authentique de toutes.
Voilà. D'accord, très bien. Donc nous sommes sur ce mur, sud au niveau de la peinture du couronnement de la Vierge et nous nous dirigeons au-dessus de la porte du cloître où nous voyons la consécration de l'autel de la Vierge de Rocamadour par Saint Martial.
Oui.
Oula, Saint Martial, on le voit bien. Oui. Debout, on voit tout de suite que c'est un évêque.
Alors c'est donc dans la lunette qui surplombe la porte du cloître. Et donc nous voyons Saint Martial au milieu, habillé de rouge, avec une chasuble rouge, coiffé de sa mitre, auréolé. Et il bénit, il encense avec un encensoir l'autel qu'il consacre, l'autel rupestre, c'est-à-dire un autel en pierre dans une grotte, qui est donc la première chapelle à la Vierge de Rocamadour. Et au-dessus de cet autel se trouve la statue de la Vierge de Rocamadour que nous connaissons. Alors, de part et d'autre, donc, Saint Martial qui était évêque de Limoges, au IIIe siècle, donc il régnait sur le Quercy, régnait entre guillemets, donc il est entouré ici d'acolytes et de diacres. Donc à gauche de l'autel, nous en avons deux, l'un qui porte la crosse de l'évêque, l'autre qui porte une croix, une grande croix.
Effectivement.
Et derrière lui, donc deux autres qui sont des diacres, ceux-là, ça c'est sûr, puisqu'ils ont des dalmatiques.
Oui, on le voit bien.
L'un qui porte le grand livre, le grand missel, l'évangélière, et l'autre qui porte un pot couvert dans lequel il y a peut-être le Saint-Crème ou quelque chose, une huile sainte.
Et donc on aperçoit Saint Martial qui est en train d'encenser l'autel.
Oui, l'autel de pierre, l'autel en pierre. Et alors, au pied de l'évêque, à genoux, en prière profonde, auréolé, nous avons un moine. Un moine pieds nus et qui doit être le rappel de Saint Amadour. Voilà, parce que ce serait anachronique qu'il soit en même temps que Saint Martial, puisqu'il est au premier temps de l'église, Amadour. Voilà. Voilà, donc on est dans une grotte, on voit bien le rocher sur la gauche, derrière la Vierge. On est bien dans une grotte, et donc en dessous de cette lunette est inscrite donc une inscription.
Sur un fond gris.
Voilà, où il est question donc de la consécration de l'autel rupestre de Saint Amadour par Saint Martial. Voilà. Autel à la Vierge Marie, bien sûr.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et peut-être pouvons-nous continuer.
Alors, sur le mur sud, donc sur le pilier.
Sur le pilier
du cœur sud.
Alors là, il y a le martyr, on va dire, de Sainte Valérie qui n'est pas Sainte Spéry.
Oui.
On va peut-être le préciser
alors,
tout de suite.
On va expliquer, parce que là, c'est un peu compliqué.
Oui.
Mais on va expliquer parce que nous voyons donc dans la partie haute de ce panneau,
ce pilier,
deux scènes. Deux scènes séparées.
Alors nous allons prendre peut-être
celle de droite d'abord, c'est le début de l'histoire.
Oui, on aperçoit.
Alors nous voyons un homme qui semble avoir de l'autorité.
Oui, qui semble donner un ordre.
Qui est assis, les jambes croisées, habillé dans une tunique d'abord très collante, une tunique jaune, revêtu donc d'un manteau bleu.
Où on aperçoit un grand bout de son torse.
Et puis, il a aussi des poulaines. Donc, on est bien au XIVe siècle.
Ah oui, effectivement.
Il est barbu et chevelu, un petit peu chauve. Mais il donne un ordre.
Oui, effectivement, on le voit bien.
Il donne un ordre de sa main droite.
Oserais-je dire que c'est menaçant?
Oui, plutôt. puisque vous voyez la suite.
Oui.
En face de lui se trouve donc une jeune fille à genoux, auréolée, en prière. Et entre les deux, le bourreau qui va couper la tête de cette jeune fille. Ce bourreau est debout. Il a une tunique courte, hein, comme tout soldat. Il a un chapeau de fer, un peu comme une passoire sur la tête, hein, voilà, en forme de passoire. Et il brandit son épée
oui.
de la main droite et il tient de la main gauche les cheveux de la jeune fille.
Effectivement, mais cette jeune fille, Marie-Madeleine...
Alors, qui est-ce ? Alors, si on s'en tient à l'inscription qui est dessous, c'est Sainte Spérie.
Bien. Alors là, vous m'avez dit en préparant cette émission.
Mais il y a un problème.
Non, ce n'est pas Sainte-Spérie.
Ce n'est pas Sainte-Spérie.
Alors, Marie-Madeleine,
alors, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, loin de là. C'est simplement un certain abbé Viguier qui, en 1899, fait une déclaration. Enfin, c'est pas une déclaration. C'est une conférence. Une conférence qui est relatée dans le bulletin de la Société littéraire et scientifique et artistique du Lot, tome 24 de 1899. Mmh. Et qui dit, mais c'est une attribution erronée que de l'avoir attribuée à Sainte-Spérie. Ce n'est pas Spérie, c'est Valérie.
Où est la vérité?
C'est Valérie.
Dites-nous.
Bon. Seulement,
vous l'affirmez.
Ah oui, je l'affirme à la suite de l'abbé Viguier, puisqu'il prouve par A plus B, si j'ose dire, que c'est Sainte Valérie.
Voilà.
Non, ça ne peut pas être Sainte Valérie. Alors, peut-être qu'on va garder le suspense jusqu'à la fin. Mais pourquoi a-t-on marqué dessous que c'est Sainte Spérie?
Oui.
C'est là qu'il y a un problème.
C'était celle que j'allais vous poser.
C'est là qu'il y a un problème.
Où est le problème?
Ce qui est amusant,
d'où est venu le problème?
L'abbé Viguier, et je vais vous le lire parce que c'est savoureux, écrit dans son bulletin, donc, « Mais l'administration diocésaine d'alors, sacrifiant la vérité historique à un patriotisme local trop étroit, voulut voir dans cette composition, au mépris de toute vraisemblance, une page des annales de notre Église, le martyr de Sainte-Spérie, patronne de Saint-Céré, et fit tracer au bas des deux tableaux une inscription dans ce sens. » Voilà. Donc l'évêque de l'époque, Monseigneur Grimardias, a tenu bon et a dit non, c'est Sainte-Spérie, c'est pas Sainte-Valérie. Je veux que ce soit Sainte-Spérie.
Monseigneur Grimardias.
Mais il se trompait.
Avait du caractère.
Il se trompait, oui. Pour avoir fait tout ce qu'il a fait, il avait du caractère.
Mmh.
Voilà.
Très bien. Marie-Madeleine, merci. J'ai tenu à ce qu'on aille jusqu'au bout de votre, explication entre Sainte-Spérie et Sainte-Valérie, parce que je vous sentais vraiment. Je vous sentais très, très, très motivée par cela. Merci, chers amis auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Marie-Madeleine, pour pouvoir continuer sur ce pilier, l'autre partie de cette peinture.
Et pour pouvoir expliquer pourquoi Valérie et pas Spérie, surtout.
Toutes les peintures de ce pilier et continuer sur les peintures de la cathédrale de Cahors. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir Marie-Madeleine.
Au revoir Martine. Au revoir à tous.
Et à très bientôt, chers auditeurs, sur Radio Présence pour nous écouter.